Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez graphite94.net ou sur le web graphite.net et on entame la deuxième partie de l'après-midi consacrée aux étudiants et aux étudiantes de WE01, une matière à l'Université de technologie de Compiègne qui s'interroge sur les enjeux contemporains liés au web et plus généralement au numérique. Et ces étudiantes et ces étudiants viennent présenter à la radio le résultat de leurs travaux du semestre entre lecture d'articles scientifiques, d'articles de presse, résumé des concepts du cours et puis production de réflexion, d'articulation entre tout ceci. Pour cette émission, donc, on est en direct dans le studio et je suis accompagné de Sian et de Paul. Et Paul, bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et c'est intéressant dans cette émission, vous allez traiter un thème qui a été peu abordé jusqu'alors. On a beaucoup parlé de dépendance aux grandes entreprises de la tech, et on a parlé de décentralisation, de l'histoire d'Internet. Mais ici, vous allez aborder les thèmes, notamment des impacts environnementaux du numérique, pas forcément connus dans leur diversité, dans leur intégralité. Et puis, un petit peu en miroir aussi de ça, vous allez, Sian et Paul, nous parler de pratiques qui permettent aussi peut-être d'envisager des alternatives et de diminuer ces impacts. Paul, c'est à toi pour commencer.
Oui, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de l'impact écologique du numérique, mais notamment dans le secteur public. Alors, on sait que si aujourd'hui, les données des administrations publiques ne sont pratiquement plus stockées sur un support papier, il n'en reste pas moins que le support numérique, utilisé majoritairement de nos jours dans les administrations publiques, impose l'existence d'immenses infrastructures énergivores. Et ces infrastructures, elles vont créer et vont faire fonctionner nos appareils numériques. Un article publié dans la revue trimestrielle Arabesque est disponible sur la plateforme en ligne Prairial, intitulé « Comment réduire l'empreinte environnementale du numérique public ?» questionne cette thématique de l'empreinte écologique du numérique. Richard Hanna, son auteur, est un membre de la mission interministérielle numérique éco-responsable. Il développe une réflexion sur la dématérialisation des données amenées par le support numérique et prône une consommation plus sobre de nos appareils numériques afin d'avoir, selon lui, un impact environnemental bien moindre. En effet, en France, selon les données d'un rapport du Sénat français, le numérique représente 2,5% des émissions de gaz à effet de serre et pourrait atteindre, selon les projections de ce même rapport, 6,7% des émissions de gaz à effet de serre en 2040. Afin de répondre à cet enjeu majeur, défini par Richard Hanna, qui est la réduction de la consommation des ressources naturelles par le secteur numérique et tout ce que le numérique implique avec lui, la mesure phare de la mission, c'est de diminuer la fréquence de remplacement du matériel informatique, c'est-à-dire de réduire le renouvellement des équipements de l'État. Cette mesure est en lien avec le fait que la production d'un appareil numérique, selon le rapport du Sénat français déjà évoqué plus tôt, représente environ 70% des émissions de gaz à effet de serre dans la vie d'un appareil numérique. En effet, la fabrication produit essentiellement par l'extraction et le traitement des minerais qui servent à la confection de nos appareils numériques, est dû par exemple à l'émission de méthane lorsqu'on extrait du charbon ou des métaux rares de la roche. Un article de Liliane De Vrieder et Vincent Couric, intitulé « La consommation de métaux du numérique, un secteur loin d'être dématérialisé », nous apprend que l'extraction et le traitement des terres rares nécessitent une grande dépense énergétique aussi. Par exemple, l'extraction de l'or requiert 208 gigajoules par kilo d'or. Et il faut savoir aussi que 10% de l'énergie mondiale est destinée à l'industrie minière. Ainsi, l'usage d'un appareil numérique a moins d'influence en termes d'émissions de gaz à effet de serre que sa fabrication. Pour autant, il ne faut pas négliger cette partie usage. En effet, l'article que j'ai évoqué plus tôt conseille de ne pas négliger cette partie usage, car elle est, dans le cycle de vie d'un appareil numérique, celle sur laquelle l'utilisateur aura le plus d'impact et pourra influer de manière directe, comparée à la fabrication ou au recyclage. Afin de réduire l'empreinte écologique du numérique, l'article affirme que le service public montre l'exemple dans ce domaine, avec la mise en place d'une stratégie de gestion des données. Cette stratégie s'articule, selon Richard Hanna, autour de la libération d'espaces de stockage primaires grâce à l'archivage ou la suppression, pure et simple, des données. L'archivage consiste en le stockage de données sur des espaces de stockage que toutes les administrations publiques peuvent consulter, avec certaines restrictions néanmoins, mais pour autant sans les modifier. Cet archivage va donc permettre d'éviter le plus souvent la duplication des données par plusieurs administrations publiques différentes. Ainsi, la réduction du volume de données stockées s'accompagne d'une réflexion sur la durée de conservation des données et leur archivage ad vitam aeternam. Par conséquent, la réduction de l'impact écologique du numérique s'accompagne d'un questionnement à mener sur nos pratiques, comme l'explique Eric Vidalenc de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans l'extrait suivant.
Alors la question, elle est à la fois individuelle et collective. Si on va sur plutôt la sphère individuelle, c'est déjà dans notre quotidien s'interroger sur le bien fondé des équipements. Au début de l'émission, on l'évoquait rapidement. Est-ce que tous les écrans dont on a sont absolument utiles ? Est-ce qu'avoir une télé, une tablette, un ordinateur, un smartphone, est-ce que tout ça concourt effectivement à un confort, à un meilleur service, etc. Et ça, c'est vraiment la sobriété, c'est-à-dire se questionner sur les besoins. Et ensuite, une fois qu'on s'est questionné sur les besoins, c'est trouver les équipements qui sont les plus adaptés et les pratiques qui sont les plus adaptées à nos usages. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le domaine énergétique l'efficacité. Donc avoir un écran qui est adapté à ce qu'on regarde, avoir un flux de données en streaming, par exemple, qui est adapté quand on regarde quelque chose sur un smartphone. Bon, c'est pas la même chose que d'aller voir un film sur l'exploration spatiale au cinéma, par exemple. En termes de qualité, de débit, on n'a pas besoin d'avoir toujours des choses de très bonne qualité et extrêmement lourdes en termes de poids. Donc ça, c'est l'efficacité.
Donc, Eric Vidalenc, dans cet extrait, nous engage à nous questionner sur nos pratiques numériques. On peut voir ce questionnement comme une des applications du concept de l'autechnisation du numérique, que l'on peut abréger en l'ONUM. Le numérique est, dans l'histoire des techniques, une technologie high-tech par nature. En effet, le numérique nécessite des compétences scientifiques et techniques avancées, ainsi que des ressources et une logistique mondialisée. Pourtant, le numérique n'est pas exempt d'une empreinte écologique et incorporer des éléments de low-tech dans un produit numérique et high-tech, comme l'utilisation, par exemple, d'écrans sans rétro-éclairage dans les liseuses numériques, prend part à l'objectif de frugalité technologique qui sous-tend notre siècle. Je vais à présent détailler ce concept du l'ONUM et pour ce faire m'appuyer sur le contenu d'un site internet librement accessible, l'onum.fr. Ce concept de low-technisation du numérique s'appuie sur trois valeurs. La soutenabilité, c'est-à-dire la réduction de l'impact environnemental du numérique afin de le rendre durable et non nuisible. La responsabilité, c'est-à-dire la réduction cette fois-ci des effets délétères des humains sur d'autres humains. Et la convivialité, c'est-à-dire la réduction de la dépendance technique des humains, l'adaptation finalement à nous des objets. La convivialité n'a pas le sens du dictionnaire, le sens courant qu'on peut lui connaître, mais plutôt reprend le concept développé par Ivan Illich, un philosophe autrichien du XXe siècle. Ce philosophe affirme qu'à partir d'un certain point de sophistication d'une société moderne post-industrialisation, la recherche de productivité de ces outils devient contre-productive. Par exemple, la voiture devient néfaste lorsqu'elle est surdéveloppée en voiture de course. Il définit alors le caractère convivial d'un outil par le fait qu'il ne se rende pas indispensable à l'humain et que ainsi l'humain puisse conserver son autonomie, par le fait également cet objet ne va pas établir une hiérarchie parmi les humains, ne va pas prolétariser l'humain, et également par le fait qu'il permette de réaliser une action nouvelle et rajoute finalement des compétences à l'humain. De son côté, Stéphane Croza, professeur à l'UTC, définit le processus de low-techisation, qui ne se limite pas au numérique cette fois-ci, mais est applicable à l'ensemble des techniques, comme consistant en la recherche d'une réduction de l'empreinte technique d'un outil sur son environnement. La low-techisation numérique a ainsi pour but de réduire le spectre fonctionnel et la complexité technique des outils informatiques, afin de produire des outils plus économes d'un point de vue environnemental et plus conviviaux, c'est-à-dire moins aliénants pour l'homme. Par exemple, une calculatrice simple est plus low-techisée qu'une calculatrice graphique, selon le critère convivial. Car la calculatrice graphique va imposer une hiérarchie entre ceux qui savent s'en servir et ceux qui ne savent pas. De plus, Depuis l'introduction de la calculatrice graphique, les élèves de mathématiques sont dépendants d'elle. Ils ne reconnaissent parfois plus une courbe à son expression mathématique et sont obligés de la tracer à la calculatrice graphique pour connaître son allure. Les leviers de ce changement de paradigme sont à la fois la réinvention d'un projet collectif, l'imagination de nouvelles possibilités d'interagir avec les appareils numériques, mais aussi l'optimisation de nos ressources avec nos besoins. Comme le disait Eric Vidalengue dans l'extrait juste avant, les pratiques numériques ne doivent pas découler d'une adaptation de l'humain et de la planète au numérique, mais bien l'inverse. Cette perspective a pour but de placer l'être humain au-dessus des objets techniques. Ces derniers se définissent alors comme subordonnés à l'être humain. L'impact du numérique, finalement, est considérable en matière environnementale, en cela qu'il pollue de manière conséquente, comme l'attestent les 2,5% d'émissions de gaz à effet de serre évoquées précédemment. De plus, le recyclage d'objets numériques est très compliqué, les matériaux des objets numériques étant variés et souvent imbriqués, ce qui rend coûteux leur séparation. L'emploi du numérique est la dépendance qui nous lie à lui, et donc à modérer et à repenser, comme l'explique encore Eric Vidalengue.
Je pense qu'il faut déjà se poser pourquoi on utilise le numérique. C'est vraiment le préalable. Le numérique, on l'emploie partout et on a tendance à penser que ce qui est numérique est forcément moderne et pertinent et bien dans l'absolu. Un peu comme on le faisait avec la voiture en fait. Cette analogie elle me semble intéressante. Comme on le faisait avec la voiture il y a quelques décennies où on disait il faut adapter la ville à la voiture. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il faut adapter nos modes de vie au numérique. Partout, il faut mettre du numérique, dans nos sphères professionnelles, privées, etc. Et puis, on se rend compte sur la voiture que ça pose plein de problèmes. Aujourd'hui, plus personne dit on va adapter la ville à la voiture. Et de la même manière, je pense qu'assez rapidement, et moi en tout cas, c'est ce pourquoi je plaide, assez rapidement, à mon sens, il faut qu'on prenne conscience de dire non, du numérique partout, tout le temps, ça ne fait pas sens. Ça ne correspond absolument pas à résoudre le problème, mais ça a plutôt tendance à l'aggraver. Et par contre, il y a des cas, effectivement, où ça peut être très pertinent pour de nouveaux modes de consommation, plus mutualisés, plus partagés. Et c'est là qu'il faut cibler et utiliser le numérique dans ces cas-là.
Oui, donc l'emploi des techniques dites numériques n'est donc pas neutre. Selon Green IT, une association engagée dans la sobriété numérique, une partie significative des émissions de gaz à effet de serre associées au numérique provient moins de besoins réels que de surspécifications techniques et d'automatisation souvent peu utiles. Ces surspécifications techniques obligent par exemple l'assembleur d'un appareil à importer une pièce de l'autre bout du monde alors qu'une technologie équivalente était dans ses stocks. L'empreinte écologique s'en trouve donc affectée. De même, les automatisations, par exemple celles apportées par l'IA, sont souvent surévaluées car vues sous le prisme du technosolutionnisme et nécessitent la construction de data centers qui vont consommer les ressources en eau et les ressources en énergie de toute une région. En suivant le concept de low-techisation du numérique, comme le recommande la mission interministérielle, l'État pourrait ainsi réduire son empreinte environnementale non pas uniquement en verdissant les technologies existantes, comme avoir un cloud plus efficient, des data centers moins énergivores et des optimisations logicielles, mais plutôt en revoyant à la baisse le niveau technologique jugé nécessaire à la fourniture des services publics. Une perspective technosolutionniste repose sur plusieurs arguments. Le premier affirme que l'amélioration de la sobriété numérique passe par l'innovation technologique. Pourtant, les gains d'efficacité énergétique liés à l'innovation, qui sont réels, sont régulièrement absorbés par une augmentation des usages ou la complexification des outils. C'est l'effet rebond. La low-techisation proposerait ainsi de renoncer à certaines fonctionnalités jugées non essentielles, comme les interfaces massivement interactives, les automatisations gourmandes en données, ou encore le stockage systématique, au profit de solutions plus durables et plus simples. Le second argument soutient que la low-techisation du numérique ne pourrait pas améliorer la résilience du service public. Pourtant, des systèmes moins dépendants, de chaînes d'approvisionnement mondialisées, par exemple des terminaux plus durables, des logiciels moins exigeants ou des infrastructures décentralisées, pourraient en théorie réduire la vulnérabilité du numérique public aux pannes critiques et aux pénuries de composants, souvent produits à l'étranger. Enfin, le dernier argument en faveur du tout technique est que la low-technisation du numérique public, en apportant des appareils moins performants est compatible avec et n'est pas compatible avec l'exigence de qualité du service public. Pourtant, certains besoins, comme les déclarations administratives, l'accès à des informations, des formulaires, etc., peuvent être faits via des techniques numériques assez sobres, finalement, sans dégrader la qualité. La low-techisation du numérique public est donc en marche, d'après la mission interministérielle numérique éco-responsable. Et selon mon opinion, c'est bien plutôt pour le meilleur que pour le pire. Ce travail a été réalisé et en s'appuyant sur des sources diverses et variées, une émission de La Terre au Carré sur France Inter, divers publications de la mission interministérielle numérique éco-responsable et le site internet Green IT que je vous recommande d'aller consulter pour prolonger votre réflexion sur la low-techisation du numérique. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Paul, pour ton travail et ton intervention. On va, tout au long de l'émission, récupérer les questions qui sont posées au fur et à mesure. Et puis, on en posera quelques-unes à la fin. Tu as dit plein de choses très intéressantes et aussi, je pense, des choses qui mériteraient des questions et des discussions, elles aussi, tout à fait intéressantes. En tout cas, merci pour ça. On va, du coup, passer une musique que tu as proposée.
La musique, c'est The Entertainment de Scott Joplin. Donc au début du 20e siècle, et c'est le roi du ragtime qui a fait la transition finalement entre la musique classique et ce qu'on peut appeler le blues jazz, enfin le début de la musique contemporaine.
Formidable. Donc la musique, la partition est dans le domaine public et l'interprétation est elle aussi mise sous licence libre par Arpeggio Allegro. C'est parti. De retour sur Graphite 94.9. Juste avant, Paul, tu nous as parlé des impacts environnementaux du numérique et puis de la démarche de l'autéquisation qui essaye d'adresser pas seulement la question de l'empreinte carbone, mais aussi la démarche de conception, la réappropriation des outils par les utilisateurs et utilisatrices. Et vous, Sian et Paul, vous allez développer un point complémentaire, connexe, qui concerne aussi la maintenance, la pratique politique quelque part de la maintenance et donc de l'extension de la durée de vie des objets numériques déjà là. C'est à vous.
Bonjour à tous. Nous sommes Paul Vuattier et Sian Vuadel, étudiants en tronc commun à l'Université de technologie de Compiègne, et nous allons vous présenter aujourd'hui le fruit de nos recherches sur l'opposition entre care et capitalisme dans le monde du numérique. Dans le cadre de WWE1, Questionner le web, nous allons vous présenter deux articles illustrant des exemples de cette opposition. Un article de Picassoft sur la maintenance informatique face à l'obsolescence programmée et un article de Framasoft sur l'OS Linux face à Windows 11, avant d'élargir sur les low-tech.
Le premier article que nous avons étudié s'intitule « La maintenance informatique, une pratique militante » de Spinelli, Snacht et Chostow de l'association Picassoft, publié en 2023. Cet article parle de l'opposition entre la théorie et la pratique sur la maintenance. Je cite « En théorie, tout le monde s'accorde à dire que nos chers ordinateurs ont besoin d'être entretenus. En pratique, on sait bien que peu de gens le font, soit par manque de temps, soit par manque de savoir-faire. » Les auteurs expliquent également que les entreprises qui commercialisent les principaux systèmes d'exploitation rendent les mises à jour logicielles de plus en plus dysfonctionnelles sur du vieux matériel. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, quand une entreprise réduit délibérément la durée de vie de ses produits pour forcer leur renouvellement. Un autre point relevé par l'article est que la maintenance est un processus chronophage pour simplement permettre à son matériel informatique de fonctionner correctement, ce qui est peu gratifiant. L'article effectue ensuite une analogie entre la maintenance et le care, définie comme une éthique du soin et de la sollicitude par Rimlinger. Selon l'article, même les tâches de care les plus simples, comme par exemple débarrasser une table, peuvent prendre beaucoup de temps car elles peuvent entraîner d'autres tâches annexes. En trouvant un vêtement sale, on se retrouve à faire une lessive par exemple. Les auteurs font le parallèle avec les mises à jour et la maintenance. On se concentre sur quelque chose, puis on voit qu'une fonctionnalité a changé ou ne va pas bien, ou qu'un autre problème a émergé durant le processus, et donc on arrange ça, et ainsi de suite. Et tout ce travail représente une charge mentale conséquente pour les acteurs, selon l'article. De plus, selon celui-ci, le manque de valorisation de ce travail peut aussi être mis en analogie avec un manque de valorisation du care, du travail conséquent et chronophage, qui n'entraîne quasiment jamais de remerciements. Or, l'article nous explique que la maintenance aide à entretenir les objets pour prolonger leur durée de vie, aider les utilisateurs en améliorant leur expérience et aider la planète en évitant l'amas de nouveaux déchets. Ils considèrent que la hausse de la maintenance et de la durée de vie pourra servir comme levier d'une transition vers une informatique plus écologique et inclusive, ainsi que vers la décroissance, terme défini par opposition à la croissance capitaliste. Cette transition s'accompagnerait d'une priorisation des besoins, par exemple la mise en place de sous-titres sur les vidéos pour les personnes malentendantes, plutôt qu'une augmentation exponentielle de la résolution et du débit. Les auteurs pensent que développer une logique de care avec les objets pourrait également aider à en développer une avec les gens. L'article conclut d'ailleurs sur un lien avec d'autres causes militantes, comme par exemple la cybersécurité des militantes sur les réseaux.
Le deuxième article que nous avons étudié est un article de Framasoft s'intitulant « Fin de Windows 10, faisons le point ». Celui-ci traite de la fin imminente du système d'exploitation ou OS Windows 10, Microsoft ayant accordé un an de sursis pour les citoyens de l'Union européenne ayant un compte Microsoft. D'après l'article, un ordinateur sous Windows 10 ne va pas arrêter de fonctionner, mais il aura de grandes failles de sécurité permettant facilement aux virus et aux hackers de pénétrer plus facilement. De plus, supprimer Windows 10 va entraîner une grande vague de déchets à gérer, car les ordinateurs ne pouvant pas passer à Windows 11 sont généralement jetés pour être remplacés par de nouveaux ordinateurs et donc de nombreux achats conséquents auront lieu. L'article suggère que la fin de Windows 10 sera lié à Copilot, un assistant IA dans lequel Microsoft avait beaucoup investi et qui nécessiterait de vendre un OS plus cher pour limiter ses pertes économiques. Toujours dans l'article, l'auteur propose ensuite une alternative au changement d'ordinateur pour Windows 11. Changer d'OS pour Linux, concurrent modeste de Windows. Ce changement d'OS doit souvent se faire manuellement à cause de nombreux deals de Microsoft avec les magasins pour vendre des ordinateurs avec un OS Windows préinstallé. L'article considère Linux comme un système informatique pouvant tourner sur n'importe quel ordinateur, y compris les plus vieux modèles. Linux possède de nombreuses distributions, c'est-à-dire différents ensembles constitués d'un système d'exploitation, d'un environnement de bureau et de logiciels de base qui varient selon les distributions, interfaces, applications préinstallées. On peut comparer les distributions à des maisons, c'est-à-dire que toutes les maisons ont un toit, une porte, des murs, des fenêtres. Ce qui les différencie, ça va être l'agencement des salles, le meublage, les applications préinstallées. Et si on a envie de tout repeindre en rose et de rajouter des murs ou d'en enlever, on peut se permettre de le faire. Selon l'article, Linux a l'avantage d'être plus sécurisé. En effet, de nombreux ordinateurs qui font tourner Internet sont sous Linux, se protégeant ainsi contre les attaques, les pannes et les coupures de réseau. Changer d'OS pour Linux est également gratuit. Cela dit, un inconvénient de Linux est l'utilisation d'applications spécifiques sous Windows qui ne sont pas forcément disponibles sous Linux, ce qui nécessite de trouver une alternative compatible. Si ce changement peut paraître comme un processus compliqué, il ne faut pas oublier que c'est juste un changement d'habitude et que, selon l'article, il existe des associations qui peuvent aider des gens à faire des changements, enfin de changer d'OS plus facilement sans avoir de connaissances en informatique.
Qu'il s'agisse de la maintenance ou de Linux, on retrouve ici deux manières de gérer la vie des ordinateurs. Le care, souvent associé au monde associatif, et le capitalisme. Seulement, ces deux gestions différentes n'ont pas que des répercussions sur les ordinateurs. Elles ont également d'autres conséquences environnementales.
Par exemple, le système dans lequel on vit, le capitalisme, est basé sur la production et la consommation des biens. Pour produire, il est nécessaire d'exploiter des ressources et en extraire en masse pour produire toujours plus, pour permettre la consommation. Par exemple, on a besoin de terres rares pour faire les batteries, des téléphones, etc., etc. Et cela peut avoir plusieurs connaissances. L'extraction va polluer l'eau et la terre par des matériaux comme le plomb qui est contenu tous les jours dans les téléphones, ainsi que l'atmosphère par des émissions de gaz à effet de serre et menacée d'épuiser les stocks de ressources. Mais cela a aussi des conséquences humaines. Cela entraîne des conflits géopolitiques, comme au Congo, où il y a de nombreux conflits armés pour s'accaparer les mines de terres rares, mais aussi le non-respect des droits humains, une cadence insoutenable, des salaires au compte-gouttes et le travail des enfants.
Face à ce constat, une alternative a vu le jour, les low-tech. Elles sont définies selon trois grands axes, pouvant également être assimilées à des objectifs selon un diagramme d'Arthur Keller et Emilien Bourningal. D'abord, une durabilité forte, la simplification des produits pour utiliser moins de ressources, consommer moins d'énergie et fonctionner à long terme. Ensuite, la résilience collective, le rendu est visé appropriable, facilement réparable par les utilisateurs et produit localement. Et enfin, la transformation culturelle, pour rendre le pouvoir aux utilisateurs plutôt qu'aux fabricants, favoriser le partage et le collectif. Face à ces objectifs, les low-tech se heurtent également à des difficultés. Elles peuvent mener à des pertes économiques, la rentabilité n'étant plus une priorité, et nécessitent une mentalité différente, à savoir une logique de sobriété, voire de décroissance, pour maximiser leurs impacts écologiques. Un exemple de cette dernière est que le recyclage, même élevé, ne fonctionne pas avec une croissance exponentielle. Le temps d'avoir fini de recycler les produits, la demande en recyclage aura trop augmenté, et ainsi de suite, selon Aurore Stéphan. De plus, elles sont difficiles à appliquer au numérique, un domaine très high-tech à cause de ses nombreuses infrastructures et de sa nature mondialisée. Cette dernière difficulté a mené à l'émergence de la notion de low-techisation, définie par Stéphane Croza comme un processus de conception consistant à rediriger l'ingénierie afin de créer des outils plus soutenables écologiquement, plus responsables socialement et plus conviviaux techniquement, trois valeurs qui ont été évoquées dans l'émission précédente par Paul. En posant des démarches plutôt qu'un idéal, elle est plus compatible avec le domaine du numérique.
C'est ainsi que s'achève notre émotion sur l'opposition entre care et capitalisme dans le numérique. C'était Paul Vuattier et Sian Vuadel sous licence libre CC by SA.
Merci pour votre intervention, Sian et Paul. Je ne peux m'empêcher de mentionner que Stéphane Crozat, qui écoute l'émission, trépigne de dire qu'en IS3, une autre UV qu'il anime à l'UTC, eh bien, ces questions sont détaillées et creusées par des projets aussi étudiants. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, que vous soyez étudiant à l'UTC ou tout simplement que vous vouliez aller regarder un petit peu ces ressources, elles sont disponibles librement sur librecours.net. On va du coup terminer cette émission en passant une musique que vous avez choisie, Sian et Paul, le temps de compiler quelques questions et puis ensuite on continuera avec la suite des émissions. Vous avez choisi la musique, c'est
Death Takes Us All de The Sperm Banker. C'est une musique libre de droit.
Et ben c'est parti.
Live from North to South.
Et de retour sur Graphite 94.9 pour terminer cette émission avec vous, Paul et Siane, avec deux questions. Vous avez beaucoup parlé donc d'impacts environnementaux du numérique. Une question, c'était de se demander, est-ce que en dehors de, bon, voilà, le numérique, vous l'avez dit, c'est high-tech, il faut extraire beaucoup de ressources, etc. Est-ce qu'il y a des impacts indirects qui viennent peut-être rajouter ou non, par exemple, est-ce que le fait que le numérique soit essentiellement financé par la publicité, ça change quelque chose, ça rajoute ou ça enlève des choses sur les impacts que ça peut avoir, et si oui, est-ce que vous avez des exemples?
Alors oui, on sait que dans les modes d'information précédents, le numérique, par exemple la télévision ou la radio, il y avait déjà de la publicité qui était passée. Mais on pouvait penser qu'avec l'instauration d'Internet et que les gens puissent rechercher une information précise, ils n'allaient pas avoir ce sentiment d'infobésité, d'avoir trop d'infos sur eux, mais pouvoir rechercher l'info qui les renseignait, qui les aidait. Et souvent, les sites Internet affichent de nombreuses publicités sur leur page web pour finalement se financer. Et donc, quand quelqu'un fait une recherche web et va sur un site pour s'informer, finalement, il est surchargé d'informations, surchargé de publicités, de contenus. Ça pourrait être contré, selon moi, par la possibilité, par exemple, de faire un abonnement Internet, comme on fait un abonnement pour le téléphone ou sur certaines applications. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous en pensez.
Je vais peut-être rajouter aussi autre chose, c'est du point de vue de la publicité pour typiquement que ce soit les ordinateurs ou les téléphones. Là, typiquement, la pub a un impact, mais c'est plus lié au fait qu'elles appellent un petit peu à l'achat, au renouvellement, à la consommation. On revient aussi sur la notion d'obsolescence qui peut aussi être liée à un effet de mode. Et du coup, sur ce point-là, en poussant à l'achat, elle pousse aussi à plus de production. Et donc, comme l'avait expliqué Paul dans sa présentation plus tôt, a un impact environnemental majeur lié à la production de ses téléphones et de ses ordinateurs.
Merci beaucoup. Une deuxième question un peu plus pratique. Vous avez pu faire l'expérience de Linux toutes et toutes en WE1 ce semestre, bien que bon, moi je trouve qu'ils ne sont pas très ergonomiques, les Linux qui sont installés à l'UTC. Mais en tout cas, est-ce que vous voyez des freins à l'adoption généralisée de Linux, par exemple, pour remplacer Windows 10? Et est-ce que, pour certains de ces freins, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais vous identifiez des leviers qui permettraient, des choses qui permettraient de lever ces freins?
Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que Linux a souvent l'image de c'est des personnes geeks qui le mettent sur leur ordinateur, c'est compliqué à faire et c'est pas très accessible. Et donc, essayer de faire un peu changer cette image, ça pourrait être intéressant. Ensuite, tout le monde n'a pas les compétences informatiques. Enfin, il suffit juste de suivre un tutoriel, mais ça peut être un peu compliqué pour qui ne sait pas faire, pour arriver à changer d'OS. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a plein de distributions, comme on l'a dit dans notre... quelquefois, on ne sait pas quelle distribution choisir. Et laquelle serait la plus intéressante, la plus facile à manier selon ce qu'on veut y faire. Et puis, il y a toujours aussi cette idée de c'est pas une alternative qui est très visible, qu'on va expliquer dans les grands médias. Il y a juste d'avoir quelques articles où on va dire changer d'ordinateur, passer à Windows 11, ou alors garder votre ordinateur, mais il y aura plein de failles de sécurité. On va rarement proposer dans des grands médias passer sous Linux. Et donc, je pense qu'il faudrait juste mettre un peu plus de visibilité sur cette option, sur cette alternative-là, de dire que c'est pas si compliqué que des personnes peuvent aider à passer à Linux. Et puis aussi aider à choisir quelle distribution selon les besoins et ce qu'il faudrait choisir.
Je ne pense pas que comme système d'exploitation, ce soit un système d'exploitation moins performant que Windows 10, par exemple, que j'utilise personnellement, ou que ça soit, c'est peut-être un tout petit peu moins ergonomique, mais je pense que le principal frein au fait qu'on n'utilise pas Linux, c'est que c'est la galaxie Linux, c'est pas, elle est moins, on va dire moins importante que par exemple la galaxie Microsoft qui va produire Windows, qui va aussi produire les ordinateurs qui vont avec. Linux va pas produire des ordinateurs qui vont avec, ça va être juste un système d'exploitation. Pareil pour Apple qui va avoir toute une galaxie de produits qui vont tous nous pousser à avoir le même système d'exploitation iOS. Donc voilà, c'est les grandes industries du numérique nous poussent à avoir leur système d'exploitation et donc c'est ça le principal frein, je pense.
Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses qui, je trouve, donnent vraiment, vraiment du grain à moudre. Et puis en plus, vous allez voir, je ne fais que de teaser la dernière émission de cet après-midi, mais il y a une tension systématique qu'on retrouve quand finalement on délègue aussi à des systèmes le fait qu'ils soient, voilà, hyper intégrés, qui sont bien reliés entre eux, qui font les choses de façon fluide. Eh ben, il y a toujours quelque chose qu'on troque contre ça. Et donc, je pense qu'une question voilà, qui peut être interrogée, est-ce que c'est désirable ou non, qu'est-ce que ça produit ou non, et voilà, je vous remercie une nouvelle fois Paul et Sian. On fait une pause de 5-10 minutes avant d'enchaîner sur la prochaine émission. Vous pouvez retrouver dans quelques jours, semaines, cette émission en podcast sur tube.picassoft.net avec toutes les sources qui l'accompagnent. Bonne fin de journée à toutes et à tous, salut.